Bonjour, ici Marc, bienvenue au 71e épisode du bonheurpourtous.info, le podcast où je partage avec vous les meilleures informations que je trouve pour reprendre contact avec notre vraie nature, le bonheur. Aujourd'hui, la suite de la troisième partie de la traduction du livre de Larkin Rose, La superstition la plus dangereuse, commencée à l'épisode 50. Ce que signifie porter l'uniforme, suite. Les actions militaires autoritaires ne sont jamais purement défensives. Lorsque les « gouvernements » déclarent la guerre, ce n'est jamais pour défendre les innocents ou préserver la liberté, bien que ce soit toujours l'objectif déclaré. Lorsque les « gouvernements » s'engagent dans une guerre, c'est toujours pour protéger ou accroître le territoire ou les autres ressources qu'ils contrôlent. La classe dirigeante, de par sa nature même, ne veut même pas que ses propres sujets soient libres, et encore moins les sujets d'un dirigeant étranger. Par conséquent, bien que l'on dise souvent que celui qui meurt au combat a donné sa vie pour son pays, en réalité, ceux qui meurent à la guerre ne sont que des ressources dépensées par les tyrans, dans diverses guerres de territoire avec d'autres bandes de tyrans concurrentes. Les gens sont abreuvés de propagande sur l'héroïsme, le sacrifice et le patriotisme, pour cacher le fait que les « gouvernements » n'entrent jamais en guerre pour servir la justice ou la liberté. Ils le font pour servir leur propre pouvoir. Un examen objectif de l'histoire le montre clairement. Même l'une des entreprises militaires les plus apparemment justifiables de l'histoire, la lutte des Alliés contre les puissances de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale, si elle a abouti à la défaite du troisième pire meurtrier de l'histoire, Adolf Hitler, a également permis au pire meurtrier de l'histoire, Joseph Staline, de se voir confier la moitié de l'Europe par les dirigeants des nations alliées. La motivation de la plupart des soldats américains qui ont participé à la guerre était sans aucun doute de protéger le bien contre le mal, mais les motivations de ceux qui les commandaient, et donc les résultats réels des efforts de ces braves soldats, n'étaient rien d'autre que la conquête autoritaire et le pouvoir. Lors de la Seconde Guerre mondiale, on aurait pu au moins suggérer, avec un peu d'imagination, la possibilité d'une invasion des États-Unis et prétendre ainsi qu'il s'agissait d'un acte d'autodéfense parce que la sécurité nationale était en jeu. Mais la plupart des opérations militaires américaines n'ont impliqué aucune menace directe pour les États-Unis. 30 000 Américains sont morts pendant la guerre de Corée. Personne n'imaginait que la Corée du Nord allait envahir les États-Unis. 50 000 Américains sont morts pendant la guerre du Vietnam. Personne n'a imaginé que les armées d'Irak ou d'Afghanistan allaient envahir les États-Unis. L'excuse pour de tels conflits a toujours été une cause vague telle que la lutte contre le communisme ou l'excuse encore plus éthérée de la guerre contre le terrorisme. Ce qui est d'autant plus ironique que des tactiques terroristes ont été et continuent d'être régulièrement utilisées par les forces américaines. La triste ironie est que la classe dirigeante américaine, en raison de la légitimité que ses victimes imaginent qu'elle a, est la seule bande réellement capable de conquérir et d'assujettir le peuple américain. La gigantesque machine militaire et tous les jeux de guerre dans lesquels elle s'est engagée, au lieu de fournir une quelconque protection réelle au public américain, sont à l'origine de la plupart des menaces étrangères existantes et servent toujours d'excuse pour justifier l'oppression des Américains par leur propre gouvernement, par le biais, entre autres choses, du Patriot Act au nom orwellien. L'autocollant populaire qui dit « Si vous appréciez votre liberté, remerciez un ancien combattant », est un symptôme permanent de la mentalité de meute, de la propagande d'adoration de l'État que les classes dirigeantes inculquent à leurs sujets pour que les maîtres continuent à avoir des pions à jouer dans leur jeu de pouvoir sadiques et destructeurs. Même lorsqu'un maître d'esclaves se bat pour empêcher un autre maître d'esclaves de lui voler ses esclaves, il n'est toujours pas l'ami des esclaves eux-mêmes. Il est tout à fait compréhensible que quelqu'un qui a risqué sa vie vécu l'enfer, blessé ou tué d'autres êtres humains, y compris éventuellement des innocents, et souffert de traumatismes physiques ou émotionnels en conséquence, soit réticent à accepter que tout son courage, ses souffrances et les dommages qu'il a infligés aux autres n'a finalement servi que les projets de mégalomanes. Cependant, même certaines des personnalités militaires les plus célèbres de l'histoire ont fini par admettre que les « gouvernements » s'engagent dans la guerre, non pas dans un but noble, mais pour le profit et le pouvoir. Le major général Smedley Butler, qui, au moment de sa mort en 1940, était le militaire américain le plus décoré de l'histoire, a écrit un livre intitulé « La guerre est un racket », qui critiquait le complexe militaro-industriel, affirmant que la guerre est menée au profit d'un petit nombre, aux dépens du plus grand nombre, allant même jusqu'à décrire son propre « service militaire » comme les actions d'un homme de main de luxe, d'un racketeur et d'un gangster. De même, le général Douglas MacArthur a estimé que l'expansion militaire était motivée par une psychose d'hystérie guerrière artificiellement induite et par une incessante propagande de la peur. Le général MacArthur a également déclaré ce qui suit. Les puissances au pouvoir nous maintiennent dans un état perpétuel de peur, nous maintiennent dans une ruée continue de ferveur patriotique en criant à une grave urgence nationale. Il y a toujours un terrible danger qui menace de nous engloutir si nous ne nous rallions pas aveuglément en fournissant les sommes exorbitantes demandées. Pourtant, rétrospectivement, ces catastrophes semblent n'avoir jamais eu lieu, n'avoir jamais été tout à fait réelles. Bien entendu, critiquer la guerre comme un racket qui ne profite qu'à la classe dirigeante ne signifie pas que la classe dirigeante de l'autre côté n'est pas également mauvaise ou qu'il ne faut pas lui résister. Les atrocités commises par les agents des régimes de Staline, Mao, Hitler, Lénine, Pol Pot et bien d'autres étaient extrêmement graves et le recours à la force défensive contre les actes d'agression commis par les agents de ces régimes était certainement justifié. Mais la guerre autoritaire oppose des pions à d'autres pions dans des combats sanglants à grande échelle qui couvrent de vastes zones géographiques, faisant toujours des victimes parmi les populations civiles, tandis que les classes dirigeantes des deux camps observent la situation à distance. Le fait que le gouvernement américain ait souvent mené des guerres contre des tyrans qu'il avait mis en place, comme Manuel Noriega et Saddam Hussein, est une autre preuve que la guerre n'est jamais une question d'idéaux ou de principes. Un exemple encore plus flagrant du fait que la guerre n'est pas une question de principe est le fait qu'au début de la Seconde Guerre mondiale, Joseph Staline et son Union soviétique étaient des ennemis jurés des États-Unis. Puis, à la fin de la guerre, les propagandistes du gouvernement américain appelaient cet assassin psychotique « Oncle Joe » et le traitaient comme un noble allié. Les crimes de Staline contre l'humanité, qui ont fait des dizaines de millions de morts, ont été largement passés sous silence aux États-Unis à l'époque. À la lumière de ces faits, il est absurde de prétendre que le gouvernement américain a décidé d'entrer dans la Seconde Guerre mondiale sur la base d'un quelconque principe moral ou pour vaincre le mal. Il est important de noter ce qui se passe et ce qui ne se passe pas dans la guerre internationale traditionnelle. Les classes dirigeantes concurrentes, y compris les dirigeants américains, se contentent de regarder leurs pions respectifs se massacrer par milliers, mais la politique officielle de nombreux gouvernements, y compris le gouvernement américain, est depuis longtemps de ne pas tenter de tuer les dirigeants étrangers, c'est-à-dire ceux qui sont les plus responsables du déclenchement de la guerre. En vérité, le moyen de défense le plus moral, le plus rationnel et le plus rentable contre toute autorité envahissante est l'assassinat de ceux qui la commandent. Cibler les gouvernements plutôt que leurs fidèles exécutants servirait merveilleusement l'humanité, non seulement en mettant fin à la plupart des conflits violents beaucoup plus rapidement, mais aussi en dissuadant fortement tout mégalomane tenté de déclencher des conflits. Pourtant, il existe un accord ouvert, mutuel et permanent entre la plupart des tyrans de haut niveau, selon lesquels, s'il est acceptable de jouer avec la vie de leurs sujets, ils ne s'attaqueront que rarement les uns les autres. Ainsi, encore et encore, un grand nombre de soldats se rendent sur les champs de bataille pour s'entretuer, tandis que les véritables ennemis de l'humanité, les dirigeants des deux camps, restent hors d'état de nuire. Ainsi, les vies des soldats bien intentionnés, les braves agents du « gouvernement », qui suivent loyalement les ordres jusqu'au bout, sont complètement gâchés dans des entreprises qui, de par leur conception, n'aboutissent pas en fin de compte à une véritable liberté et à une véritable justice pour qui que ce soit. Et si un soldat parvient à reconnaître et à cibler les principaux responsables de l'injustice et de l'oppression, ceux qui portent l'étiquette de « gouvernement » dans les deux camps de chaque guerre, il est condamné comme un traître et un terroriste. Commettre le mal avec fierté. Qu'il s'agisse d'un soldat ou d'un bureaucrate de bas niveau, le travail de tous les « responsables de l'application de la loi » consiste à imposer par la force la volonté de la classe dirigeante à l'ensemble de la population. Néanmoins, la plupart d'entre eux s'imaginent que, ce faisant, ils servent le peuple. Bien entendu, l'idée de servir quelqu'un en exerçant des violences à son encontre est ridicule. Pensez à l'oxymore de l'absurdement nommé Internal Revenue Service, le service de l'impôt sur le revenu aux USA, qui ne fait rien d'autre que de voler des milliers de milliards de dollars à des centaines de millions de personnes chaque année. Plutôt que d'envisager la possibilité que ce qu'ils font régulièrement, participer à un système d'agression et de coercition, soit immoral et non civilisé, la plupart des mercenaires d'État, du gratte-papier au tueur à gages, se contentent de dire qu'ils ne font que leur travail, et s'imaginent que cela les exonère de toute responsabilité personnelle pour leurs actions et les résultats de ces actions. C'est ceci avant tout qui a causé la chute de la société humaine. La plupart des maux et des injustices commis par les êtres humains ne sont pas le résultat de la cupidité, de la malveillance ou de la haine. C'est le résultat de personnes qui font ce qu'on leur dit, qui suivent les ordres, qui font leur travail. En bref, la majeure partie de l'inhumanité de l'homme envers l'homme est le résultat direct de la croyance en l'autorité. Les dommages causés par ceux qui se contentent d'obéir sont tout aussi réels et tout aussi destructeurs que s'ils avaient été causés par une malveillance personnelle. Qu'une vieille dame soit volée par un voyou armé ou par un percepteur bien habillé et bien éduqué ne fait aucune différence ni sur le plan moral ni sur le plan pratique. Qu'une famille irakienne soit tuée par des soldats de Saddam Hussein ou par des soldats du gouvernement des États-Unis ne fait aucune différence, ni sur le plan moral, ni sur le plan pratique. Que les choix personnels d'une personne soient contrôlés de manière coercitive par un voyou de quartier ou par la police ne fait aucune différence, ni sur le plan moral, ni sur le plan pratique. La seule différence est que le voyou autoritaire, du fait de sa croyance délirante en l'entité mythique appelée « gouvernement », refuse d'accepter la responsabilité personnelle de ses propres actes. Sa croyance dans la superstition la plus dangereuse le rend incapable de reconnaître le mal comme tel. En fait, il se sentira fier de sa loyale obéissance à ses maîtres, alors qu'il passe jour après jour à infliger des souffrances à des innocents, parce qu'on lui a enseigné toute sa vie que lorsque le mal devient « loi », il cesse d'être mauvais et devient bon. En vérité, si quelque chose est un péché, c'est l'obéissance aveugle à l'autorité. Agir en tant qu'exécutant pour le gouvernement équivaut à un suicide spirituel, en fait pire qu'un suicide physique, parce que chaque exécutant autoritaire non seulement supprime le libre arbitre et la capacité de jugement qui font de lui un être humain, il tue ainsi sa propre humanité, mais laisse aussi son corps intact pour que les tyrans s'en servent comme outil d'oppression. Être un exécuteur de la loi, c'est se transformer volontairement d'une personne en un robot qui est ensuite donné à certaines des personnes les plus malveillantes du monde pour être utilisé afin de dominer et d'asservir l'humanité. Porter l'uniforme d'un soldat ou l'insigne d'un agent de la force publique n'est pas un motif de fierté. Cela devrait être un motif de grande honte d'avoir abandonné sa propre humanité pour devenir un pion des oppresseurs. Voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui. Si vous aussi, vous voulez que ceux dont on parle ici arrivent aux oreilles de plus de monde, parlez-en autour de vous, faites des heureux. Et laissez un commentaire sur iTunes, s'il vous plaît, ça aide les gens à trouver ces informations plus facilement. Sur bonheurpourtous.info, il y a un lien qui vous amène au podcast dans iTunes. À l'épisode prochain, avec la suite de la troisième partie de « La superstition la plus dangereuse, les effets du mythe sur les victimes ».